La grève des cheminots, première leçon. Après 3 mois de grève, le front syndical est en train de se fissurer avec le départ de l'UNSA et celui quasi annoncé de la CFDT. En revanche, la CGT et Sudrail appellent à continuer le mouvement en juillet et tout dépend évidemment de la détermination des cheminots. Par sa durée, par le nombre de grévistes qu'il a mobilisés, le mouvement de grève des cheminots démarré le 3 avril est déjà l'un des plus importants conflits à la SNCF des 20 dernières années. Mais surtout, avec ses forces et aussi ses limites, il dresse depuis près de 3 mois une fraction des travailleurs face au gouvernement sous le regard de toute l'opinion ouvrière. Le mouvement est d'ores et déjà riche d'enseignements pour les grévistes d'aujourd'hui et de demain, à la SNCF comme ailleurs. Non un pacte, mais une déclaration de guerre aux cheminots. Le pacte ferroviaire qui vient d'être voté par le Sénat le 13 juin et l'Assemblée nationale le 14 contient pour l'essentiel 3 mesures. L'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs avec le transfert obligatoire des cheminots au privé sous peine de licenciement, la transformation des 3 établissements SNCF en sociétés anonymes, et la fin du recrutement au statut. De plus, la filialisation du fret a été annoncée. Il s'agit donc d'une attaque en règle contre les cheminots. Il est encore loin d'être en application, et d'autres réformes pourtant votées et promulguées ont fini à la poubelle, comme le contrat première embauche en 2006. Pour autant, nombre de politiciens et de journalistes ont salué ce qu'ils ont appelé le « blitzkrieg », la guerre et la victoire éclair du gouvernement, puisqu'il s'est écoulé moins de 4 mois entre l'annonce de ce plan le 27 février et son adoption par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'inquiétude des partisans de la réforme ne résidait évidemment pas dans le vote des assemblées, tout aussi godillot l'une que l'autre, dès qu'il s'agit de s'en prendre aux travailleurs. Non, leur crainte était le spectre de 1995, quand la grève des transports avait paralysé une bonne partie du pays et avait contraint le gouvernement Juppé à manger son chapeau et retirer sa réforme des retraites. Malgré sa ténacité, le mouvement n'a pas eu une dynamique et une ampleur telle qu'il contraigne le gouvernement à reculer. Pourtant, au sein même des observateurs bourgeois, plusieurs relativisent cette victoire et ne cachent pas leur inquiétude. L'objectif escompté était de mettre KO les cheminots, autant par le but que par les moyens mis en œuvre par Macron. En effet, en s'attaquant simultanément au monopole de la SNCF sur le transport ferroviaire, en la transformant en société anonyme, privatisable ultérieurement, et en supprimant le statut des cheminots qui leur garantit une certaine sécurité d'emploi, le gouvernement voulait montrer qu'il n'hésitait pas à démolir ce qui a constitué le cadre du quotidien de générations de cheminots. Il voulait montrer à la bourgeoisie et à tout l'électorat de droite qu'il était capable de s'en prendre frontalement à des travailleurs, même réputés combatifs, organisés syndicalement, sans craindre leur réaction, contrairement à ses prédécesseurs. Pour tenter de dresser une grande partie de l'opinion publique contre les cheminots, le gouvernement a de plus orchestré, à l'annonce de son plan, une véritable campagne de calomnie contre eux, en particulier contre le statut, présenté comme un privilège inouï et responsable des pannes et des retards à répétition de la SNCF. Les cheminots sont eux bien placés pour connaître la véritable cause des dysfonctionnements, le manque d'effectifs et l'état d'abandon d'une grande partie du réseau. La récente paralysie, le 13 juin, de tout le réseau de la gare Saint-Lazare en raison d'une pièce de signalisation défaillante datant de 1966, d'une valeur de 150 €, dont les cheminots demandaient le remplacement sans succès, en est une illustration. Alors, cette campagne de dénigrement a peut-être porté ses fruits dans l'électorat anti-ouvrier ou le moins conscient, mais elle a eu pour effet d'ulcérer les cheminots jusqu'au cadre supérieur et de les dresser vent debout contre le gouvernement. Ainsi, le SNCS, le syndicat des cadres supérieurs de la SNCF, a écrit en avril une lettre à la ministre des Transports. Citation. « Pour des raisons de stratégie politique, Vous avez fait le choix, avec le président de la République et le Premier ministre, de livrer à la vindicte populaire les cheminots. » Fin de citation. Peu habitué à revendiquer, le syndicat indiqué, citation, « c'est pour défendre notre honneur, car le gouvernement touche à notre conscience professionnelle. » Fin de citation. On a donc vu dans cette grève non seulement les agents d'exécution et des petites maîtrises, mais aussi des cadres s'opposer à cette réforme. Le résultat du vote action montrant 95% d'opposition au pacte avec une participation de 61% a confirmé ce refus que la participation à la grève indiquait déjà. Loin de diviser les cheminots entre eux, le gouvernement a réussi à les unir contre son projet, contre la direction de la SNCF qui a aussi multiplié mensonges et provocations à l'égard des grévistes. Loin de réussir à embarquer les cheminots derrière ses cadres autour du discours de Pépi, le PDG, sur le thème « battons-nous face à la concurrence pour être les meilleurs », entre guillemets, il a au contraire conduit beaucoup de cadres et agents de maîtrise à se ranger avec les grévistes en situation de légitime défense. L'inquiétude des commentateurs bourgeois. Les plus conscients des commentateurs bourgeois voient le problème. Ainsi, Raymond Soubi, ex-conseiller en relations sociales de Sarkozy, indique, citation, « c'est la bonne méthode pour arriver à une loi, mais pas forcément pour la faire appliquer et embarquer tous les personnels dans sa mise en œuvre. » Les Échos du 12 juin. Le journal Le Monde, dans son éditorial du 18 juin, en relève pour sa part que, citation, la bataille du rail n'est pas finie et elle va laisser des séquelles à la SNCF. L'entreprise offre un visage sinistré avec des relations sociales très dégradées. Fin de citation. Un autre journaliste du Monde doute du coût de l'efficacité de la réforme. Citation, pour avoir une chance de réussir, une réforme doit recueillir un minimum d'assentiment de la part des principaux concernés. Or, de ce point de vue, ce n'est pas gagné. Dans le climat délétère qui règne actuellement dans l'entreprise, on souhaite bien du courage à Guillaume Pépi pour retisser des liens sociaux passablement distendus au cours de 3 mois de grève. Stéphane Lauer, 18 juin. L'inquiétude de ces commentateurs est au contraire ce qui peut faire la fierté des grévistes. Ils ont collectivement relevé la tête. Les manœuvres de la direction, la retenue des repos comme jour de grève, l'embauche d'intérimaires ou de retraités pour remplacer les grévistes, les calomnies, etc., tout autant que celles du gouvernement, non seulement n'ont pas dissuadé les grévistes, mais elles ont renforcé leur détermination et leur cohésion. Le mouvement a touché la majorité des cheminots, de quelques jours de grève pour certains, à plus d'une trentaine pour ceux qui ont suivi le calendrier fixé par l'intersyndicale, et même bien au-delà pour d'autres, sans qu'il y ait de coupure entre les uns et les autres. Et il est quasi impossible de trouver un défenseur de la réforme parmi les cheminots. Les commentateurs de la bourgeoisie appellent cela un climat délétère. C'est au contraire un climat de lutte, de fierté, de solidarité, opposé à l'individualisme et à la résignation qui donne le ton à la SNCF depuis 4 mois. Cela prépare bien l'avenir et les bourgeois de tout acabit ont raison d'être inquiets. Le mépris du gouvernement à l'égard des syndicats. L'autre aspect spectaculaire et peu habituel de la tactique du gouvernement a été son mépris affiché vis-à-vis des organisations syndicales, du moins jusqu'au début de mai. À son annonce du projet de loi, le gouvernement avait bien programmé un calendrier de discussion entre Elisabeth Borne, la ministre des Transports, et chacune des organisations syndicales. Mais Édouard Philippe prévenait d'emblée que les 3 points de sa réforme n'étaient pas du tout négociables. Il indiquait aussi sa décision d'utiliser les ordonnances et d'aller au plus vite. C'était une provocation à l'égard des syndicats habitués à être associés, au moins formellement, à certaines discussions. Le 3 avril, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, dont le fonds de commerce est d'apparaître comme le bon négociateur, s'est indigné du fait que le gouvernement exprime, citation, une forme de mépris à l'égard des partenaires sociaux et de la négociation collective. Fin de citation, Le Figaro du 3 avril. Mailly, alors à la tête de EFO, et qui a collaboré avec le gouvernement dans les ordonnances de la loi travail à l'automne dernier, a craint de ne pouvoir jouer le rôle de pompier. Citation. « Quand l'herbe sèche, l'étincelle prend plus facilement », fin de citation, a déclaré Mailly au Monde le 9 avril. En fait, tous les syndicats réclamaient l'ouverture de réelles négociations. S'ils avaient des doutes, le démarrage des discussions avec la ministre a achevé de les convaincre que leur consultation était de pure forme. Tous sont restés stupéfaits devant l'aplomb d'une ministre qui ne prenait même pas la peine de donner un argument ou une réponse à leurs questions. Rémi Aufrère, pour la CFDT Cheminots, dit le 18 avril, citation, « On s'interroge car on se sent littéralement humilié. Le gouvernement cherche son succès en race campagne. C'est contre-productif à long terme. » Fin de citation. Roger Dillon-CG, pour l'UNSA, autre syndicat ayant soutenu les précédentes réformes, se désespérait. Citation, « Je n'ai jamais vu une telle méthode de négociation, si l'on peut appeler cela ainsi. » Fin de citation. Exemple du mépris dans lequel le gouvernement tenait les organisations syndicales, elles ont appris par la presse la date de la fin programmée du recrutement au statut au 1er janvier 2020, alors que cette date, très maigre consolation, devait être un point de négociation. Éric Meyer, dirigeant de Sudrail, lors de la conférence de presse de l'intersyndicale, s'est indigné avec les autres que la ministre n'ait pas jugé bon de les en informer. Il en a été de même pour l'annonce de la filialisation du fret ferroviaire. C'est délibérément que le gouvernement a choisi de fouler aux pieds les offres de services des syndicats, y compris les plus collaborateurs, les contraignant, sous peine de perdre tout crédit auprès des cheminots, de former un front uni de façon inédite pendant 3 mois. Le revers de la médaille a été que, plutôt que de décourager les grévistes, son attitude méprisante a elle aussi contribué à la mobilisation dans la durée des cheminots. Finalement, au bout d'un mois de mouvement de grève, le 7 mai, Édouard Philippe a fait un geste en acceptant de recevoir les organisations syndicales qu'il ignorait jusque-là. L'échec des basses manœuvres. Mais s'il changeait de ton, il était hors de question de céder quoi que ce soit aux cheminots. La reprise de 35 milliards de la dette de SNCF Réseau était une opération de diversion prévue de longue date et qui ne concernait en rien les cheminots, même si l'intersyndicale en a fait un de ses premiers points de négociation. C'était une revendication des syndicats, mais pas des cheminots. Une autre tentative fut celle de la CFDT de faire valoir à l'Assemblée puis au Sénat des amendements. Mais ceux-ci sont tellement dérisoires qu'il était impossible de les présenter devant les cheminots. De ce fait, il était bien difficile pour les syndicats, en particulier l'UNSA et la CFDT, de se retirer du mouvement. Dillon-CG de l'UNSA déclarait ainsi, d'après le journal Les Échos du 12 juin, citation, « L'ambiance est compliquée car on négocie une régression sociale. » Fin de citation. Il ajoutait, citation, « Si je sors du mouvement, autant me faire harakiri. » Fin de citation. D'autant que les élections professionnelles sont prévues à l'automne prochain. Et si la direction de la CFDT a fait un pas vers la sortie en appelant à assurer les trains du quotidien, entre guillemets, la semaine du baccalauréat, il est notable que ses propres militants ont refusé de défendre cette position dans bon nombre d'assemblées. La politique de la CGT. La direction du mouvement a de fait appartenu à la CGT, qui est de très loin la principale organisation, tant en termes d'effectifs militants que d'influence chez les cheminots. Elle en a fait la démonstration dès le début du mouvement en organisant la manifestation nationale du 22 mars qui a regroupé 25 000 cheminots, actifs et retraités. Si les autres organisations syndicales s'y sont ralliées, la CGT rassemblait les 4/5 du cortège. C'est aussi la CGT qui, quelques jours plus tôt, le 15 mars, a fait avaliser par l'intersyndicale le calendrier de grève par période de 2 jours sur 5 à partir du 3-4 avril et qui a donné jusqu'à aujourd'hui au mouvement sa physionomie. Quelle qu'ait été la surprise de nombreux militants, y compris de la CGT, à l'annonce de cette forme de grève intermittente, il est vite apparu que nulle part les cheminots n'étaient prêts à la déborder. Si une assemblée comme celle de la Gare du Nord a, par exemple, voté le 22 mars le principe d'une grève reconductible à partir du 3 avril, celle-ci ne fut réellement suivie que par quelques dizaines de grévistes au-delà des jours du calendrier. Il en a été de même dans d'autres secteurs où des cheminots choisissaient de rester en grève reconductive entre deux périodes, mais de façon très minoritaire. D'autre part, si une fraction des travailleurs, majoritaire en particulier chez les agents de conduite et les contrôleurs, est restée en grève chaque jour du calendrier jusqu'à aujourd'hui, ce ne fut pas le cas dans tous les secteurs, bon nombre de cheminots faisant leur propre calendrier de grève à l'intérieur du calendrier de l'intersyndicale. La question n'est pas d'opposer telle tactique en soi, comme la grève reconductible, aux 2 sur 5, entre guillemets, comme étant la recette miracle valable en tout temps et en tout lieu, et surtout indépendamment de ce que les travailleurs sont prêts à faire. Un mouvement peut commencer par une simple journée d'action, comme le 13 mai 1968, et déborder vers une grève générale, sans même d'appel syndical. Et même des journées d'action, suffisamment rapprochées, comme en 1995, ont pu permettre aux militants de s'appuyer sur des secteurs déjà mobilisés pour entraîner les autres. Créer une dynamique ou la verrouiller. Loin de vouloir créer une dynamique, la CGT cheminot précisait dès le 16 mars, au lendemain de l'apparition du « calendrier », entre guillemets, son objectif dans un rapport interne destiné au secrétaire de syndicat. Citation. « Avoir une mobilisation stable dans la durée pour passer les étapes de la stratégie gouvernementale et leur faire comprendre qu'ils ne gagneront pas en attendant le pourrissement. » Fin de citation. L'objectif était donc d'atteindre une mobilisation stable, en fait d'accompagner le calendrier législatif et celui des négociations. Il ne s'agissait pas de donner l'initiative aux cheminots, mais de cantonner leur lutte à soutenir les négociateurs syndicaux. Plutôt que de tenter de convaincre qu'il faudrait, à un moment ou à un autre, jeter ses forces dans la bataille, toujours dans le même rapport, la fédération CGT flattait la grève à l'économie. Citation, « Tous les cheminots, que ce soit ceux qui veulent s'économiser ou ceux qui veulent perturber la production, pourront s'y retrouver. » Fin de citation. Et elle tenait à verrouiller d'avance toute initiative de la base, y compris la sienne propre, en concluant, citation, « Il va nous falloir être clairs avec le moins de voix dissonantes possible. Nous ne pouvons pas refaire la stratégie en fonction de l'humeur, des tergiversations environnantes sur les sites. Il n'y en a qu'une seule. » Fin de citation. Derrière l'humeur, les tergiversations, entre guillemets, il s'agit en fait, dans le langage suffisant des bureaucrates, de l'opinion des travailleurs. Pour eux, ceux-ci doivent être capables de supporter plus d'un mois de retenue sur salaire, mais pas de décider de leur grève. La méfiance allait jusqu'au rang même de la CGT, la fédération recommandant de, citation, tenir les assemblées générales régulièrement avec des AG de syndiqués avant celles des cheminots, fin de citation, afin que ceux-ci ne parlent que d'une seule voix. Après le succès du 22 mars, dans une autre note interne, elle interdisait le lendemain à ses militants et syndiqués, citation, de prendre part à un quelconque vote pour une reconduction le 5 avril, fin de citation. Tout cela montre la crainte de la CGT de ne pas maîtriser le mouvement. Or, c'est en créant une dynamique, en s'appuyant sur l'enthousiasme et l'énergie des grévistes, sur leur nombre qui multiplie par 100 les forces militantes, en les transformant en acteurs de la grève, qu'un mouvement peut prendre le caractère incontrôlable d'une réaction en chaîne. Mais un mouvement incontrôlable, c'est aussi ce que craignent les directions syndicales. Et ce mouvement l'a encore prouvé. Ce n'est que lorsqu'elle a vu que le mouvement avait peu de chances de la déborder, que la direction de la CGT a, dans une certaine mesure, lâché la bride, autorisant par exemple des assemblées interservices là où elle s'y était opposée. Il est vain de spéculer sur le fait qu'une grève reconductible aurait ou non pu enclencher une autre dynamique. D'une part, parce qu'on ne refait pas l'histoire, mais surtout parce que le rôle des militants ouvriers dévoués à leur classe n'est pas de faire des diagnostics a priori et de les imposer, mais de s'appuyer sur la volonté, le niveau de conscience et de combativité des grévistes au fur et à mesure de la lutte. Citation, L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. » Fin de citation, était la formule fondatrice de la Première Internationale ouvrière. Cela commence par le fait que les travailleurs soient maîtres de leur mouvement, et la seule forme de lutte adaptée est celle qui s'appuie sur la conscience et la détermination des grévistes à chaque étape. Cela n'a rien non plus à voir avec la posture de la Fédération Sudrail, dont le seul fait d'armes a été de déposer un préavis de grève reconductible, mais sans jamais y appeler par elle-même, ni d'ailleurs chercher à s'en donner les moyens. Elle s'appuyait sur la stratégie de l'intersyndicale, dont elle tenait à faire partie d'un côté, tout en la critiquant localement en fonction des circonstances et des opportunités. Fondamentalement, Sudrail défendait tout autant que les autres ses intérêts d'appareil. Être reconnu comme interlocuteur et négociateur par le gouvernement, tout en gardant un œil rivé sur les prochaines élections professionnelles. Les acquis du mouvement. Le mouvement n'a pas eu la puissance de dépasser et déborder le cadre fourni par les organisations syndicales. C'est sa principale limite. Mais dans ce cadre, pendant 3 mois, les travailleurs du rail ont fait de multiples expériences. Des dizaines de milliers d'entre eux ont participé à des assemblées, à des manifestations, des rassemblements. Ils ont établi des contacts avec des travailleurs d'autres secteurs, à la SNCF et aussi en dehors. Le caractère non corporatiste du mouvement s'est traduit par des diffusions de tracts, des rencontres auprès d'autres travailleurs. C'est ainsi que des cheminots sont venus prêter main forte à des travailleurs de Carrefour, par exemple. Des cheminots se sont aussi rassemblés le 19 juin à la gare de l'Est à Paris pour soutenir les travailleurs de Ford Blancfort qui allaient en Allemagne pour défendre leur emploi. Dans des dizaines d'endroits, des contacts ont été noués entre militants et travailleurs de différentes entreprises. Ces liens sont précieux pour l'avenir. Bon nombre de travailleurs ont vu que, malgré leur gesticulation et leur sommation, le gouvernement et la direction de la SNCF n'avaient pas les moyens de faire cesser une grève. Et sa poursuite est suivie et commentée, ne serait-ce que par les bulletins de circulation des trains, devenus dans les médias aussi quotidiens que ceux de la météo. Les cheminots et bien d'autres travailleurs ont pu constater, même si c'est parfois en déplorant l'absence de transport, que la classe ouvrière a un rôle irremplaçable dans la société et les cessations du travail, même limitées à une fraction d'entre elles, permet d'en prendre la mesure. La lutte continue et, quel qu'en soit le résultat, bien d'autres surgiront dans des circonstances forcément différentes et propulseront à nouveau sur la scène des travailleurs en grève. Mais ils y retrouveront les mêmes acteurs, tant du côté du gouvernement, du patronat, que des bureaucraties ouvrières. Alors, il est du devoir des travailleurs, des militants, d'analyser les intérêts et l'attitude des uns et des autres, de tirer le bilan de chaque lutte, afin de préparer la suivante et lui permettre cette fois d'aller au bout de ses possibilités. 20 juin 2018.